À 41 ans, Claude est décédé brutalement dans un accident de moto. Ce drame, c'était il y a 20 ans, et sa compagne, l'écrivaine Brigitte Giraud, a choisi de le coucher sur le papier en publiant « Vivre vite », un roman dans lequel elle raconte également sa propre vie, encore traversée par les ombres, les fantômes et les échos du deuil. Car écrire sert aussi à cela, à brasser, à déranger avec pudeur toutes les certitudes en permettant de devenir spécialiste, dit-elle, du cause à effet. Brigitte Giraud part de sa réalité et la transforme en un début de fiction. Comme dans un de ses précédents romans, Un loup pour l'homme, où un futur père prend la mesure de la guerre d'Algérie en soignant les blessés. On la retrouve pour la saison 2 du Qu'est-ce qui lit du monde des livres.
Qu'est-ce qui lit, qu'est-ce qui lit, qu'est-ce qui lit.
Bonjour Brigitte Giraud.
Bonjour.
Bienvenue dans notre studio installé au cœur du Salon du Livre du Mans, Faites lire. Nous sommes ensemble pour évoquer les livres les plus marquants de votre vie. Les meilleurs souvenirs comme les pires souvenirs. Et bon, on va commencer par ces deux questions. Les meilleurs souvenirs de lecture.
Alors, le meilleur souvenir de lecture, c'était Le Premier Souvenir, qui est un livre qui n'est pas un livre de littérature, puisqu'il s'agit d'un livre de la Bibliothèque Verte, écrit par Paul-Jacques Bonzon. Et le titre, c'est L'Éventail de Séville. Et ce livre m'a absolument marquée. Parce que déjà, il me déplaçait au niveau du lieu. Moi, j'habitais dans une cité proche de Lyon. Et déjà, la ville de Séville est quelque chose dont je ne soupçonnais pas l'existence de cette ville. J'avais, 11-12 ans, on n'en avait encore jamais parlé. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est le nom du fleuve, le Guadalquivir. Et je trouve ça merveilleux comme nom de fleuve. Donc, j'ai beaucoup rêvé autour du Guadalquivir, que j'ai fini par aller visiter. Et L'Éventail de Séville était un livre extrêmement marquant parce qu'il contenait déjà tout ce dont les vies sont faites. C'est-à-dire une histoire d'amour impossible entre une jeune fille qui vend des éventails, qui est d'une classe sociale relativement bourgeoise, un jeune homme d'extraction pauvre qui lui vend de la horchata et qui n'a de cesse de regarder, de désirer la jeune Juanita. Et puis, à un moment où cela est possible, ils vont prendre la fuite ensemble. Donc, ça va être un voyage dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Donc, tout cela a été écrit assez relativement naïvement, mais ça m'a vraiment marqué. Et au moment où il peut enfin lui déclarer son amour, c'est très, très mal fait. Je me dis ça aujourd'hui, mais il traverse la route pour la prendre dans ses bras avec une rose rouge et une voiture arrive et c'est le drame. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis qu'il y a vraiment tout ce que j'ai travaillé ensuite dans mes propres livres, c'est-à-dire les histoires d'amour impossible, la passion absolue, les classes sociales, la mort de l'autre, le soleil qui tape trop fort, le lien à un pays mythique. Et ce livre m'a vraiment bouleversée et aussi et surtout par sa couverture que je juge aujourd'hui assez ringarde, évidemment, et très, très pauvre. Mais c'était une belle jeune fille avec une robe comme les Andalouses, les robes de flamenco.
On dit que dans la vie, il n'y a pas de brouillon. Est-ce que c'est ce que vous recherchez dans la littérature et dans vos lectures ?
D'ailleurs, pour revenir à l'existence, moi j'ai l'impression que l'existence est un long brouillon, qu'on fait des essais, puis quand on commence à comprendre comment ça marche, c'est terminé. Voilà, moi je pratique l'écriture de cette façon, et la lecture également. C'est là où on peut faire des pas de côté avec et se soustraire évidemment au quotidien et entrer dans un quotidien où tout est plus violent, tout est plus noir, tout est plus lumineux, tout est plus excessif.
L'accélération.
L'accélération, le rapport au désir, parce que le temps est donné pour regarder de très près. C'est pas que c'est plus excessif, c'est juste qu'on a le temps de s'installer et de regarder. Ça permet de vivre deux fois, en fait, de lire.
Est-ce que vous avez quand même de mauvais souvenirs de lecture ? Des livres qui vous tombent des mains ?
J'en ai pas tellement, parce qu'en fait, quand un livre me tombe des mains, je passe à un autre livre. Je m'entête pas à essayer de lire un livre qui me résiste. Alors, pour autant, je n'ai jamais lu jusqu'au bout La Recherche du Temps Perdu. Et pendant la période de confinement, le premier confinement, j'ai cru que le moment m'était donné. Donc, je me suis dit, je vais m'installer tranquillement dans un canapé. Je vais prendre les premiers volumes de La Recherche et puis j'ai vraiment le temps d'y aller.
Finalement, à un moment où où le rapport au temps a changé.
Était complètement distordu et s'étirait, mais à un moment de grande inquiétude. Et je parcours les 30 premières pages que j'avais lues déjà quand j'avais 17-18 ans. Donc je recommence vraiment depuis le début de façon assez obsessionnelle. J'ai toujours un rapport assez obsessionnel aux choses, c'est-à-dire bien faire depuis le début jusqu'à la fin, dans le bon ordre. Et au bout de 30-40 pages, j'ai tout envoyé, mais pété, parce que j'avais l'impression qu'il fallait être dans une attitude bourgeoise, assez tranquille, sans être dérangée, enfin surtout sans que l'esprit soit dérangé. Et je me suis dit que ce livre serait définitivement pas pour moi et sûrement pas dans cette période. Mais en même temps, j'espère que j'y reviendrai parce que parmi les écrivains, ça fait vraiment partie du c'est un peu la patate chose que chacun se refile. C'est t'as lu La Recherche, est-ce que t'as lu La Recherche? Donc il y a tous ceux qui prétendent la relire. Et le mot relire, je trouve que c'est un mot un peu poseur, parce que là où certains relisent, certains comme moi n'ont pas commencé à lire, notamment certains grands classiques.
Justement, est-ce qu'il y a des livres que vous aimez relire?
Ouais, il y a plein de livres que j'ai envie de relire. J'aimerais relire Camus. Il faut absolument que je relise Camus, parce que j'ai l'impression que... Bon, je suis née en Algérie, mais ce n'est pas l'unique raison. J'ai l'impression que L'étranger, c'est maintenant que je peux le comprendre. Maintenant que je sais aussi quel a été le destin de Camus, sa mort prématurée en janvier 1960, un accident qui a eu lieu alors qu'il n'aurait pas dû avoir lieu, parce que Camus n'aurait pas dû prendre la voiture de son éditeur. Il devait rentrer en train avec sa femme et leur fille. Et puis, il y a eu, au dernier moment, il y a eu quelque chose qui s'est détourné. Et ça m'intéresse, évidemment, ça m'intéresse beaucoup, puisque mon dernier livre parle de l'accident de mon compagnon et pose aussi les questions de savoir est-ce qu'il y a un destin et est-ce qu'il y a une généalogie, et les conditions, le cours des choses qui généreraient un accident. Est-ce qu'on y peut quelque chose à rebours? C'est ce que j'essaye de faire. Et j'ai beaucoup pensé pour Camus et son rapport à l'existentialisme, son rapport à l'absurde. Et lui, il dit dans un de ses livres, je sais plus lequel, que l'absurde nous lie. Crée des liens. Et je suis super d'accord avec lui, mais je me dis qu'il faut que j'aille vérifier à nouveau dans Camus et que j'aille tout relire. Puis cette histoire d'étrangers, c'est-à-dire de plage, d'hommes français d'Algérie, d'arabes, d'armes à feu, d'éblouissement par le soleil. Je retrouve aussi l'éventail de Séville. Pour moi, il y a quelque chose qui est... puis la violence inouïe. Et je n'avais pas conscience, au moment où je l'ai lu, je n'avais pas conscience de la guerre d'Algérie. Et maintenant que je suis repassée par ça et que j'ai écrit moi-même autour de la guerre d'Algérie, je sais que je comprendrai Camus autrement.
On en lit un petit passage?
Oui, je peux vous lire juste après l'enterrement de la mère du narrateur, dès le lendemain où il se rend à la plage et il rencontre Marie. C'est un extrait de L'étranger de Camus. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu, comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute, je ne l'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors ? » a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait, et moi, je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu. « Non. » Elle s'est tue un moment et elle m'a regardée en silence. Puis elle a parlé. Elle voulait simplement savoir si j'aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme, à qui je serais attachée de la même façon. J'ai dit « Naturellement. » Elle s'est demandé alors si elle m'aimait et moi, je ne pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a murmuré que j'étais bizarre. Qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela, mais que peut-être un jour, je la dégoûterais pour les mêmes raisons. Comme je me taisais, n'ayant rien à ajouter, elle m'a pris le bras en souriant et elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi. J'ai répondu que nous le ferions dès qu'elle le voudrait. Je lui ai parlé alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait connaître Paris. Je lui ai appris que j'y avais vécu dans un temps et elle m'a demandé comment c'était. Je lui ai dit « C'est sale. Il y a des pigeons et des cours noirs. Les gens ont la peau blanche. »
Est-ce qu'il y a un livre qui vous réconcilie avec l'existence ?
C'est pas sûr. Je suis pas fâchée d'ailleurs avec l'existence. Elle a des aspects vraiment magnifiques. elle est d'une violence inouïe, mais elle peut être d'une violence inouïe dans ce qui est vivifiant. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Pluie » de Kirsty Gunn. C'est une écrivaine néo-zélandaise qui vit, en Angleterre, je crois. « Pluie », c'est une histoire d'adolescence. C'est l'histoire d'une grande sœur et d'un petit frère. Ça se passe pendant l'été dans une maison au bord d'un lac. C'est assez mystérieux. Les parents font la fête tous les soirs et toutes les nuits avec d'autres amis. Ils écoutent de la musique, ils boivent de l'alcool. C'est un monde comme ça, où les adultes vivent intensément. Et la grande sœur et le petit frère vont se baigner au bord du lac et sont vraiment très indépendants et on les laisse face à une liberté totale. Et puis, petit à petit, on sent que quelque chose va monter, qui va rendre l'atmosphère de plus en plus inquiétante. Mais pour autant, ce rapport à l'enfance, à l'inquiétude et au monde des adultes est quelque chose qui me fascine. J'aime énormément ce livre.
Est-ce que c'est un livre que vous avez offert à des personnes qui vous sont chères?
Oui, Pluie, je l'ai offert beaucoup. J'en ai plein d'exemplaires déjà avec un petit papier cadeau pas loin pour l'offrir. Parce que je trouve que c'est un livre qui peut être lu par tout le monde, y compris par des grands adolescents. Il y a énormément de douceur, même s'il y a un lien à un drame potentiel. Et c'est un livre qui dit aussi la chaleur, la vacance. C'est un rapport au temps très particulier. Oui, je l'offre beaucoup.
Et vous, est-ce qu'il y a des livres que l'on vous a offerts à plusieurs reprises?
Alors, on m'a offert La recherche du temps perdu, justement, le jour de mes 40 ans.
Parce qu'on savait que vous ne l'aviez pas lu.
Peut-être, oui, parce qu'on savait que je ne l'avais pas lu, mais on ne savait pas que je ne le lirais pas tout de suite. voilà, sinon, non, mes proches n'osent pas m'offrir des livres parce qu'ils savent que j'en achète beaucoup, que je lis beaucoup et ils ont toujours peur de se tromper. Et je crois que c'est difficile d'offrir un livre à quelqu'un qui écrit. Enfin, en tout cas, ce que me disent des amis, c'est cette chose-là. Donc, pas trop.
Non. On a peur du jugement quand vous ouvrirez le papier cadeau. Qu'est-ce qui les effraie?
Je ne sais pas. C'est d'ailleurs très dommage. À chaque fois, je dis, mais non, mais offrez-moi des livres. Au contraire, parce qu'offrir un livre, ça parle quand même beaucoup de celui qui offre. Ça ne parle pas forcément de celui qui reçoit, comme tous les cadeaux.
Et de la manière dont on voit celui à qui on offre un livre aussi.
Oui, exactement. Et je trouve que, de toute façon, la question du cadeau, elle est assez passionnante. L'idée de donner, l'idée d'attendre une réaction, c'est très, très beau. Ouais.
Vous avez un endroit, un moment aussi, pendant lequel vous aimez lire plus que d'autres?
Avant, je lisais simplement une fois que la journée était écoulée, parce que la journée, j'étais pas disponible pour lire. Donc, le moment juste avant le coucher, vraiment le moment dans le lit avant de dormir. Et puis là, de plus en plus, je passe un peu de temps sur un réseau social et je m'en veux vraiment.
Lequel?
Sur Facebook, où je suis en lien avec des amis écrivains et là où ça se passe de ce point de vue-là aussi. Mais l'endroit, moi, où je lis, vraiment, c'est dans le train. Le train est idéal pour lire parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il y a un temps qui est donné, qui est imparti, qui est en général 2-3 heures, qui va bien avec le moment de lecture. J'aime beaucoup ça, oui.
Vous arrivez à lire pendant que vous écrivez?
Non, pas du tout. Je n'arrive pas à lire comme je n'arrive pas à écouter de musique. Il faut vraiment que la création du monde intérieur soit le moins perturbée possible. Alors si, je peux lire, ça m'arrive de lire pendant l'écriture d'un livre, parce que l'écriture d'un livre, ça prend 2 ou 3 ans, donc bien sûr que oui. Mais
pas dans les phases particulièrement intensives.
Non.
Et justement, pour le dernier roman, Vivre vite, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont pas inspiré, mais du moins accompagné?
Non, pour ce livre-là, je devais me débarrasser de tout un tas de choses plutôt que d'engranger, en fait. Et je voulais surtout me débarrasser de tout ce qui pouvait avoir trait au deuil, parce que Vivre vite, c'est pas du tout un livre de deuil, en fait. C'est un livre qui dit la vie avant et qui essaye de comprendre comment la vie, dans ses différents emboîtements, peut arriver à un point de catastrophe. Pour autant, dans ce livre-là, je fais référence à 2 autres livres, à un livre de Patrick Autréau, dont le titre m'échappe, mais dans lequel j'ai prélevé une phrase qui dit « Écrire, c'est se rendre à ce lieu qu'on voudrait éviter ». Donc j'aime beaucoup cette idée de l'évitement. Et je fais référence à Philippe Forest, qui lui a écrit différents livres chez Gallimard à partir de la mort de sa petite-fille de 4 ans, Pauline. Il avait écrit « L'enfant éternel » et tout un tas d'autres livres qui ont suivi. Et je fais référence à un de ses livres que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Sarinagara », qui veut dire « et cependant » en japonais, dans lequel il fait référence d'une part à l'écrivain japonais Kenzaburo Oe, qui lui-même a eu une enfant handicapée, mais surtout au deuil collectif qu'a vécu et que vit peut-être encore le Japon suite aux bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Et ce que je trouve très intéressant dans l'écriture, et c'est aussi mon cas, c'est comment on peut faire résonner la part intime et la part collective.
Je le disais dans l'introduction, il y a beaucoup de cause à effet dans le dernier livre, avec où justement vous évoquez les « si, c'était passé si, c'était passé ça ». Est-ce qu'il y a un livre qui a provoqué ça en vous, qui a eu de la lecture à l'effet sur peut-être votre réflexion sur une question, votre comportement dans la vie ?
Ce qui a provoqué ou en tout cas accompagné la lecture, c'est plutôt le travail de plasticien. C'est les plasticiens Fischli et Weiss, c'est un duo de plasticiens suisses qui sont assez âgés, d'ailleurs l'un d'entre eux est mort il n'y a pas longtemps, qui ont mis en place dans leur atelier ce qu'ils ont appelé le cours des choses, Der Lauf der Dinge. Et avec des objets trouvés dans l'atelier, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire, par exemple, une petite bille qui va rouler dans une rigole, qui va tomber dans un bol d'eau, qui va déborder, qui va ensuite générer une situation suivante, etc., etc. Et le livre, je l'ai voulu construire de cette façon. Vraiment, ce rapport de cause à effet.
Merci Brigitte Giraud pour cette avalanche de possibilités de lecture qui s'ouvre aux lecteurs qui nous écoutent. Je rappelle votre dernier roman, Vivre vite, sorti aux éditions Flammarion. Marion. Retrouvez tous les épisodes du Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et les plateformes de streaming. À bientôt et bonne lecture.